Fréquence protestante, le Midi Magazine, Emmanuel Taïeb.
Bonjour à tous et toutes, très heureux de vous retrouver en direct pour ce Midi Magazine consacré à ces revues livres hybrides qu'on appelle les MOOC. L'émission d'aujourd'hui s'intitule « Les MOOC des ovnis journalistiques ». Mes invités sont l'universitaire Annick Battard, la directrice éditoriale de la revue Portrait Rachel Bévilacqua et le rédacteur en chef de la revue de France Culture Papier, Philippe Thureau-Dangin. L'année 2008 voit en France la sortie d'un ovni éditorial 21, lancé par un éditeur et un journaliste chevronné et qui va, contre toute attente, rencontrer un succès qui ne se dément pas. Le marché des MOOC est lancé en France. Rappelons-le, le mot MOOC est la contraction de magazine et book. C'est une formule éditoriale qui relève effectivement de la revue et du livre, mais aussi du journalisme et de la littérature. Le mot MOOC n'est d'ailleurs pas toujours employé, on parle de bookzine, de revue-livre ou simplement de revue. Mais dans tous les cas, il s'agit de proposer au lecteur des articles longs, des illustrations, du photojournalisme, le tout dans un bel écrin qu'on aura envie de conserver. Format long donc, 180 à 200 pages par numéro, et surtout vendu dans les points presse et pas seulement dans des librairies spécialisées comme pour les périodiques universitaires. On trouve aujourd'hui en librairie plusieurs titres, Six mois, Schnock, Feuilleton ou L'éléphant, chacun avec sa spécialisation. Mais ce qui frappe, c'est le retour d'un récit journalistique qui prend son temps, qui renoue avec le reportage au long cours, qui permet d'aller au fond des choses et qui donne visiblement du plaisir à ceux qui écrivent. Les MOOC marquent donc le retour de ce qu'on appelle le slow journalisme, qui s'oppose aux fast news des magazines et des réseaux sociaux. Contre le robinet à info, les MOOC entendent faire vivre une autre écriture et une autre temporalité. Bonjour Annick Battard.
Bonjour Emmanuel.
Alors Annick Battard, vous êtes maître de conférence à l'université Paris 13, rattachée au LAPSIC, qui est le laboratoire des sciences de l'information et de la communication. Vous êtes spécialiste des critiques culturelles de la presse généraliste. Vous avez récemment signé une contribution qui s'intitule « France Culture Papier, un étrange hybride, une revue livre issue de la radio », contribution qui est parue dans l'ouvrage co-dirigé par Audrey Alves et Marieke Stein, « Les MOOC, espace de renouveau du journalisme littéraire ». Ça a été publié chez L'Harmattan en 2017 et il y a aussi avec vous une vingtaine d'autres contributeurs. Bonjour Rachel Bévilacqua.
Bonjour Emmanuel.
Rachel Bévilacqua, vous êtes journaliste, vous avez travaillé pour divers titres de presse, mode et culture et vous avez lancé au printemps 2014 des éditions du Portrait qui publient la revue Portrait, un MOOC dont vous assurez la direction éditoriale. Portrait en est à son quatrième numéro, bientôt un cinquième et comme son nom l'indique, cette revue part à la rencontre de figures marquantes de notre époque. Bonjour Philippe Thureau-Dangin.
Bonjour Emmanuel.
Philippe Thureau-Dangin, vous êtes journaliste, vous avez été président du directoire de Télérama, directeur de la rédaction de Courrier International, rédacteur en chef de la revue INA Global. Et depuis cette année, vous assurez la rédaction en chef de Papier, la revue de France Culture, qui en est à son 22e numéro et qui tire, je crois, vous nous direz, à plus de 30 000 exemplaires. Je voulais vous poser à tous les trois une question pour lancer cette émission, qui est la question assez classique, mais qui nous permet de lancer la discussion. Comment sont apparus les MOOC en France et est-ce qu'il y a peut-être dans l'esprit ou dans votre esprit l'idée d'avoir de grands inspirateurs, par exemple The New Yorker ou des revues américaines où on prenait son temps, où on avait un journalisme de récit un peu plus long que les dossiers assez courts finalement des Newsmag. Philippe Thureau-Dangin, Annick Battard. Alors, Annick Battard.
Alors, merci. Oui, je crois qu'il y a eu quelques exemples de revues. Par exemple, j'ai en mémoire la revue Et moi, qui était une revue qui a été créée par le groupe de presse Ringier, qui était une belle revue avec des articles longs à vocation culturelle. Et donc, je pense que si l'on examine tout le paysage, il y a des ancêtres. Bien évidemment, dans le côté de presse française et cette arrivée, je crois que vous allez en parler après, de la revue 21.
On va en dire un mot, Philippe Thureau-Dangin.
Oui. Pour compléter, il y a eu deux choses. D'une part, je pense que les MOOC, finalement, prennent la suite d'une longue histoire qui passe par des revues qui n'étaient pas des revues universitaires du type la revue des Deux Mondes, et qui passent aussi, enfin je ne sais pas si vous le dites dans votre ouvrage, et qui passent aussi par des choses beaucoup plus légères, comme par exemple le magazine Géo. Je suis le plus âgé ici peut-être, et le magazine Géo, dans les années 80, 70, était acheté pour son côté justement d'évasion, de choses comme ça. Et je pense que les MOOC sont un petit peu à la croisée de ces deux traditions, de, à la fois d'une sorte d'ouverture, et très souvent les MOOCs sont tournés vers l'international. C'est le cas, bien sûr, de 21 qui est le modèle. Et l'autre petit détail, c'est qu'il y a eu quand même des choses à l'étranger, non seulement le New Yorker que vous citez, mais qui est un hebdomadaire, mais aussi des MOOC comme le Monocle, par exemple, qui est paru un petit peu avant le 21, et qui, dans le format, même si dans l'ambition et dans l'écriture journalistique n'est pas du tout la même chose, mais dans le format, en tout cas, et dans la périodicité, c'est assez proche de 21 et des autres MOOC que nous faisons par la suite.
On va justement écouter, on en a parlé, une interview de Patrick de Saint-Exupéry, fondateur de 21. C'était en 2010 sur AgoraVox.
21 fédère des auteurs et des lecteurs curieux qui ne sont pas dans une volonté de qu'on leur donne une vision du monde, qui sont dans une volonté de rentrer dans le monde par le récit, par la curiosité. Et les auteurs, eux, sont avides de réel et s'adressent à des lecteurs qui aussi sont avides de réel. C'est vraiment un journal qui est fait pour raconter le monde tel qu'il est, au plus près, au plus proche, sans être dans une logique de point de vue. À notre sens, et c'est tout le projet à l'origine de 21, il y a un déferlement d'informations au jour le jour, où tous les jours, les informations se succèdent. Pendant une semaine, on va parler du tsunami, la semaine suivante, on va parler des subprimes, et le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur décroche, n'arrive pas à se représenter le monde, tout va tellement vite, nous pensons qu'il a dans sa tête une sorte de puzzle désordonné où rien n'est à sa place. Et 21, comme d'autres journaux qui ont fait ça auparavant, redonne contact avec la réalité du monde, rappuie les choses dans leur profondeur. Et ça, c'est notre grand apport et c'est notre volonté, c'est de nous inscrire dans la profondeur des choses. Donc de nous détacher de ce que nous appelons l'écume de l'actualité et de la vague, pour être dans la vague et pas dans l'écume.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Emmanuel Taïeb.
Les MOOC des ovnis journalistiques. Rachel Bévilacqua, que vous inspire cette petit passage d'interview de Patrick de Saint-Exupéry?
Alors j'ai un... oui, évidemment, j'approuve et je comprends tout à fait ce qu'il dit. Mais moi, j'ai le sentiment que le MOOC, ça peut être aussi autre chose, qui s'inscrit dans une histoire plutôt anglo-saxonne. Et je pense à des revues comme Grand A en Angleterre ou Paris Review aux États-Unis, où il y a une vraie dimension littéraire, en fait. Et donc, c'est des auteurs américains comme pouvaient être Butch Ulberg, John Didion... et j'en passe et des meilleurs, évidemment j'oublie les noms. Et donc oui, c'est du journalisme, mais c'est, je pense que c'est avant tout, c'est un regard singulier sur un sujet, une envie de passer du temps sur le sujet et d'essayer de le comprendre et de partager en fait le travail de quelqu'un d'autre ou le sujet qui traverse une société. En tout cas, c'est comme ça que nous, on a pensé Portrait.
Mais avec une attention particulière à l'écriture, c'est-à-dire que ce qui vous intéresse, par exemple, c'est moins la dimension journalistique au sens de quelque chose de très informatif que mêler l'information et une écriture qui vous paraît relever de quelque chose de littéraire finalement.
Oui, alors après l'écriture journalistique, l'objectivité me paraît complètement... je pense que c'est un non-sens. Quand on écrit, il y a toujours... c'est forcément subjectif. D'ailleurs, c'était une des questions. Et peut-être qu'effectivement, dans le MOOC ou dans la revue, on permet plus à l'auteur de travailler sa langue et de travailler son regard sur le sujet, oui.
De prendre un peu de temps. Est-ce que les MOOC sont venus enregistrer une forme d'épuisement aussi du journalisme classique, avec un rythme fou, des papiers relativement courts, pas forcément extrêmement fouillés, ou sont venus prendre le contre-pied de l'info qui est déversée sur les réseaux sociaux, Annick Bata?
Je ne pense pas qu'il y ait d'opposition, mais plutôt une complémentarité. En fait, le journalisme s'inscrit dans un temps rapide, même de plus en plus rapide. Et en fait, les MOOC arrivent dans une temporalité plus grande, avec un souci de l'écriture, un souci de donner la parole. Donc c'est en fait retrouver les origines du journalisme, simplement avec une complémentarité.
Est-ce que y a aussi l'idée, quand même, quand vous parlez des origines du journalisme, de revenir vers le reportage au long cours? C'est-à-dire un format qu'on a du mal à publier aujourd'hui quand on est journaliste reporter ou quand on est le Nicolas Bouvier contemporain. Est-ce que le MOOC permet ça aussi, Annick Bata?
Alors, quand on voit les origines du journaliste, Ferenczi rappelle que ses origines sont en France, notamment, très liées à la politique et à la littérature. Et donc, on voit que en France, cette origine de la littérature et d'un souci d'une écriture littéraire a toujours été présente. Mais je pense que ce sont les questions de temporalité qui font que parfois l'écriture va être plus rapide et puis aussi les modèles américains qui vont éventuellement donner une dimension différente. Mais je pense que ça existait depuis longtemps. Simplement, les MOOC leur offrent une possibilité justement de temps long et de soins de l'écriture.
Mais c'est ça l'idée, c'est-à-dire peut-être prendre préciser, du temps.
Pour compléter et préciser un petit peu ce que vient de dire Annick, c'est le, je crois qu'il y a eu un divorce entre les écrivains et la presse à partir des années 60-70 pour plusieurs raisons. Il y a eu d'abord la méfiance à l'égard de la presse capitaliste pour des écrivains qui étaient très engagés, alors Sartre, etc. Et d'un autre côté, un modèle effectivement américain qui a été apporté et véhiculé notamment par Séverin Schreiber à l'Express et qui a été plus ou moins suivi par la presse qui est petit à petit entrée aux mains et a été aux mains des gestionnaires plutôt que des journalistes ou des, et encore moins des écrivains comme au XIXe siècle. Et donc ce double mouvement fait qu'il y a eu un grand divorce et que en effet, des MOOC ou des revues comme Portrait ou d'autres, aujourd'hui, réconcilient un petit peu et font travailler des, heureusement, des écrivains dans des espaces de liberté. Mais voilà comment on peut expliquer. Et alors, ce que je voulais dire sur l'histoire, c'est aussi que il n'est pas absolument étonnant que les MOOC apparaissent et ont du succès à la fin des années 2000, à début des années 2010, à une époque où effectivement la presse classique est véritablement en crise, parce que bien entendu Internet remplace en grande partie la presse classique sur notre besoin d'information au jour le jour, à la minute, etc., etc. Enfin bon, tout ça sont des lieux communs, mais le public, je crois, une grande partie du public aime encore lire, aime encore le papier, aime encore effectivement cette recherche, enfin cette qualité d'écriture dont vous parliez, Rachel. Et donc, je crois que les MOOC peuvent se définir par une double exigence à la fois de texte et aussi de mise en scène. C'est-à-dire que, bien sûr, on cherche à faire des beaux objets, des objets que le public a envie de garder. Et c'est pour ça que je faisais référence à Géo ou à la Revue du Monde, parce que dans les familles bourgeoises des époques passées, eh bien, on gardait aussi la Revue des Deux Mondes et Géo.
Oui, il y avait toute la bibliothèque qui devenait verte avec toutes les tranches des Géo. Rachel Béville, à quoi ?
Et le point que vous avez noté là sur le fait que ce soit un bel objet, c'est tellement important. Ce que je veux dire, c'est qu'une image dit quelque chose, ça exprime quelque chose, une maquette dit quelque chose. Et en effet, mettre un texte dans une maquette qui est pas pensée, qui est pas intentionnée, c'est abîmer le texte aussi. Donc oui, c'est très très important. Et pareil pour l'image. L'image a un sens, c'est une expression.
J'ai remarqué qu'évidemment, dans tous les MOOC, ou globalement, il y a aussi non seulement un retour de l'écriture journalistique un peu longue, mais un retour du photojournalisme. Alors, il y a un MOOC spécialisé qui s'appelle 6 mois, mais il y a quand même des choix photographiques un peu forts dans France Culture Papier, enfin dans papier, comme dans Portrait, même si les photos sont moins présentes.
Enfin, dans Portrait, on a quand même fait le choix de toujours mettre des photos pleines pages. Alors, moins, mais pleines pages. Oui, alors...
Non, sur l'idée d'une attention au photojournalisme.
Je crois qu'au-delà de la photo, il y a ce souci de l'illustration en général. Et ce qu'on voit apparaître, c'est que, bon, 21 a fait son succès sur l'illustration...
Les illustrations dessinées.
Dessinées. Enfin, après, il y a eu la BD, avec un MOOC spécialisé sur la BD. Il y a effectivement la photo qui est très présente dans beaucoup de MOOC, y compris dans celui que je dirige, qui est papier, où il y a effectivement un portfolio à chaque fois, et puis une attention sur la photo. La photo, il faut savoir quand même que c'est un coût, quoi. C'est assez cher. Et donc, dans l'idée de faire un bel objet qu'on a envie de garder, il y a ce souci. Enfin, il faut accepter de dépenser un peu d'argent pour que les photographes, d'ailleurs, soient rétribués, puisque leur métier aujourd'hui est difficile.
Le prix d'un MOOC est un peu plus cher que le prix d'un magazine ou d'un newsmag. C'est autour d'une quinzaine d'euros. Donc, c'est presque le prix d'un livre. Là, il y a quelque chose qui peut faire obstacle, ou au contraire, on se dit j'achète un livre, Annick Bâtard.
Je pense que ça tient à l'hybridité des MOOC, en fait, qui sont donc des hybrides entre le livre et la revue. Et donc, il y a une volonté de patrimonialisation. Donc, on peut penser que le lecteur est prêt à mettre effectivement 3 ou 4 fois plus, mais pour conserver son ouvrage, dont mes collègues précisaient ce côté de l'importance de la photographie, du prix aussi, mais aussi de la mise en forme, de la qualité du papier. Donc ce sont de beaux ouvrages, à la fois tant dans le contenu, mais aussi dans le contenant. On a envie de les garder et on peut les garder.
21 avait sorti, je ne sais pas si c'est encore le cas à une époque, mais il y avait même un coffret presque annuel où on pouvait avoir les 4 numéros. Là, il y a un choix éditorial aussi très fort de dire, c'est comme il y a des coffrets de disques ou des coffrets de Pléiade, on peut avoir le coffret 21, Annick Bâtard, sur... Ce bel objet.
Je pense qu'effectivement, le cartonnage permet, là encore, d'ajouter à la patrimonialisation. En revanche, en ce qui concerne France Culture Papier, alors je ne nomme pas encore papier, puisque j'ai travaillé sur les 10 premières livraisons, en fait, on note au contraire peut-être une sorte d'éloignement avec le livre, puisqu'au départ, il a une contre-couverture, il a vraiment un côté de glose que l'on montre avec le livre, tandis que maintenant, il prend peut-être une dimension plus orientée vers la revue, avec donc des aspects toujours soignés. C'est un bel objet soigné, mais il est peut-être plus dans une approche de belle revue, plus exactement que du livre. Mais Philippe va peut-être dire l'inverse.
On a Philippe Durodanger en plateau. L'orientation. Alors déjà, pourquoi le changement de titre? C'est l'idée de France Culture Papier à papier.
France Culture Papier, pour moi, c'était pas vraiment un titre de revue. Enfin, c'était quelque chose, une sorte d'amalgame. Et effectivement, ceux qui ont initié, Jean-Philippe Jean et Olivier Poivre d'Arvor, initié cette revue, c'était un paradoxe, puisque c'était finalement la revue à lire. Mais ça se conçoit au sens où France Culture a une richesse toutes ces heures d'émission qui est très importante. Et l'idée que moi je me fais, en tout cas de papier, de cette revue, c'est non seulement de reprendre le meilleur, ou en tout cas une partie du meilleur des émissions de France Culture, mais aussi d'apporter des choses inédites. Et donc ne pas avoir que des dialogues, parce que c'est un peu lassant. Et donc il y a aussi des articles inédits, des articles traduits de la presse étrangère, et des bonnes feuilles de livres à paraître, pour qu'il y ait à la fois, et ce que disait Patrick de Saint-Exupéry dans l'extrait que vous citiez, c'était effectivement ce qu'on cherche tous à faire, il me semble, c'est aussi l'intérêt de ces MOOC, c'est la réflexion, c'est la profondeur, c'est laisser le temps au lecteur de réfléchir, de revenir, de passer, de le lire petit à petit. Moi, j'ai rencontré un lecteur de papier la semaine dernière qui me disait, oui, moi je lis chaque dimanche matin, 1 heure, et finalement ça me fait pratiquement le trimestre. Donc je trouve ça formidable, c'est un lecteur rêvé.
Il le lit presque comme on écoute la radio, avec une base de rencontres
hebdomadaires. Voilà, exactement, oui. Non, mais je pense qu'il doit avoir son emploi du temps du week-end très cadré. Oui.
Il a ses rituels. Dans son premier édito pour France Culture Papier, Olivier Poivre d'Arvor, qui est alors directeur de France Culture, écrit: qui n'a pas un jour rêvé de lire France Culture? Annick Bâtard, est-ce qu'on peut concevoir que cette revue-là a été lancée aussi comme dans une stratégie de marque, enfin sans aucune péjoration dans ma bouche, hein, mais comme dans une stratégie de marque de France Culture, faire vivre France Culture au-delà de la maison de la radio?
Oui, sans aucun doute. En fait, il y avait justement, là encore, cette complémentarité entre la radio et la revue livre. Donc, on avait un côté où France Culture Papier jouait sur le côté une revue à écouter, et une annonce où France Culture allait dire, il y a également ce côté où on a une émission qui devient un livre, donc un jeu sur le côté son et livre, qui est une complémentarité qui s'inscrit tout à fait dans la dynamique des industries culturelles actuelles, et bien sûr la dimension de marque, puisque c'est France Culture, donc c'est une garantie de sérieux, avec, on le sait, des émissions soignées, des contributeurs vraiment influents, et aussi une dimension où on va pouvoir apporter un complément, par exemple, ne serait-ce que les illustrations. Une des livraisons que j'étudie, il y a un important article sur Picasso, sur des interdits de Picasso, et bien la revue peut présenter à l'image, grâce à l'image, peut présenter ses peintures et ses dessins de Picasso. Donc c'est la complémentarité qui est importante.
Philippe Thureau d'Angin, il y avait l'idée que la radio, il y a une telle masse qui est produite d'émissions de grande qualité par France Culture que même entre les émissions de flux et les podcasts, même comme ça, on ne s'y retrouvait pas et qu'il fallait marquer un temps d'arrêt, c'est encore la question du temps, avec une version papier qui est une espèce de best-of, mais pas que, qui est aussi une présentation de ce qui se fait sur France Culture et des animateurs, on en dira un mot.
Oui, l'autre idée, c'était de croiser les regards, parce que l'un des intérêts de la revue tel que je le conçois, c'est aussi de faire des dossiers. Alors, on peut ne pas faire des dossiers, mais en l'occurrence, à papier, nous avons choisi de faire un dossier assez solide, plus solide que dans la version précédente de France Culture Papier, au sens où nous avons des multiples contributions d'émissions, effectivement, de chroniqueurs de France Culture, mais aussi d'apports extérieurs, comme je le disais tout à l'heure, et sur des sujets qui sont des problématiques, disons, qui traversent l'actualité aujourd'hui. Donc, dans le numéro 21, il y avait la question des fake news et du vrai et du faux. Savoir où on en est de cette question. Est-ce que ça a encore un sens? Et dans différents domaines, pas seulement la politique, mais aussi les sciences. Est-ce que le roman dit quelque chose de vrai ou non, etc., etc. Et dans le numéro 22, c'est un autre sujet, un décalque aussi de l'actualité, savoir si le nouveau est une valeur importante. Pourquoi nous voulons du nouveau? Pourquoi à la fois nous avons peur de l'inédit et en même temps nous voulons de nouvelles têtes au pouvoir, par exemple. Et donc ce genre de problématique demande, me semble-t-il, une multiplicité de contributions, de regards différents. Et donc c'est ça l'intérêt et l'apport de la revue par rapport à la radio ou à des podcasts que vous pouvez bien sûr, et que je vous invite à écouter.
Donc l'idée, c'était de dire on prend une thématique, mais au lieu de... Alors elle est complètement dispersée dans la radio, mais au lieu de la traiter, au lieu qu'elle soit traitée uniquement par des journalistes, on va aussi avoir justement l'éclairage de savants, d'universitaires, donc un autre regard complet par rapport au même dossier ou au même thème qui pourrait être traité dans un news magazine, par exemple.
Oui, bien sûr, il n'y a pas d'enquête à proprement parler, puisqu'on parlait d'écriture journalistique, il n'y a pas véritablement d'enquête, mais il y a des apports, en effet, de philosophes, de sociologues et d'écrivains, parce que c'est très important, justement, enfin, on en parlera à propos de portraits et d'autres, c'est important qu'il y ait ce regard des créateurs en général et des écrivains en particulier. Et donc, il y a ce dossier, puis à côté, il y a des choses plus diverses sur le cinéma, la peinture, puisqu'on parlait de Picasso, mais sur le théâtre, par exemple. On a publié une masterclass de Denis Podalydès, qui était, je crois, passionnante, pour ceux qui s'intéressent en tout cas au cinéma ou au théâtre, puisqu'il parlait des deux. Voilà, c'est ce genre de choses qui permettent d'aller plus loin. Et en effet, par rapport à la radio, l'intérêt, c'est qu'on a publié un certain nombre de photos de Podalydès et de ses compagnons de jeu en situation, et qui montrent la diversité à la fois la diversité des pièces et du type de jeu qu'un acteur comme Podalydès peut développer sur scène.
Annick Bâtard, pour rester sur l'idée de la stratégie de marque, il y a eu un moment dans les premiers numéros des portraits d'animateurs de France Culture. J'ai souvenir d'un portrait de Marc Vincher qui, à l'époque, présentait les matins. Donc il y avait aussi ça, et on va mettre l'activité journalistique ou radiophonique en avant.
Tout à fait. Alors, comment dire, il y avait déjà dans ces premières livraisons, donc je rappelle que j'ai travaillé sur les 10 premières livraisons, un dossier qui était peut-être moins organisé et moins volontairement plus complet, mais quand même, ce dossier existait. Il y avait effectivement des présentations de grands portraits de certains animateurs de France Culture, d'ailleurs tout à fait intéressants. Donc, on avait en fait une multiplicité d'actions, de regards, mais aussi une sorte de construction collective autour de France Culture, dont on pouvait dire qu'il y avait une construction, un dialogue, une discussion autour de France Culture et d'une volonté, je crois, de sérieux qui existe probablement toujours.
Juste un dernier mot là-dessus, c'est que l'idée de changer de nom, de devenir papier, c'est aussi d'avoir des lecteurs qui ne sont pas forcément auditeurs de France Culture. Parce que d'abord, France Culture fait encore peur, ce qui est idiot. Et puis, le public peut avoir le temps de lire une revue et pas forcément le temps de beaucoup écouter la radio et ni France Culture. Le pari est en partie gagné parce que nous avons rassemblé quelques abonnés la semaine dernière, et parmi eux il y avait des gens qui étaient lecteurs donc de la revue et qui écoutent peu la radio et écoutent peu France Culture.
Donc l'idée c'était finalement de couper en partie, de dire on va avoir un lectorat qui...
L'idée c'est de devenir une vraie revue, voilà, une vraie
autonome,
revue avec cette richesse de France Culture, autonome et avec cette exigence qui a été rappelée, mais de vivre comme une revue avec sa propre personnalité qui est un tout petit peu décalée par rapport à Culture.
Annick Bâtard, dans les premiers numéros de France Culture Papier, on a une impression de choisir, hein, mais de grand éclatement. C'est-à-dire qu'on va avoir, un peu comme les émissions de radio elles-mêmes, on va avoir dans la mise en page, hein, des pastilles, une vignette, même sur la première couverture, c'est plein de petites photos. Et puis progressivement, ça tend un peu à disparaître. Et par exemple, la couverture devient assez vite une avec une assez grande photo et d'autres petites. Mais il y avait ce choix au début de faire quelque chose de plus dynamique, ou en tout cas de refléter le côté hétérogène des émissions de radio.
Probablement, y avait-il l'enthousiasme du début, et on note que dans les premières livraisons, par exemple, il y a un tiret à part, un cahier qui s'inscrit en fait dans France Culture
Papier. Un peu plus petit d'ailleurs dans le format.
Un peu plus petit, ouais. Donc ce qui demande en fait un gros travail à l'imprimeur, parce qu'il y a donc une qualité, mais également des pages qui ne sont pas dans le même grammage, ni dans la même qualité de papier mat, puisqu'elles sont légèrement brillantes, imprimées sur un papier, un côté un peu sépia. Donc effectivement, une multiplicité qui peut-être est expliquée par une sorte d'enthousiasme, de volonté, là c'est toujours clairement exprimé, de traiter de tout. Le côté culture, donc Jean-Philippe Djian explique qu'il s'intéresse aux cultures au pluriel, donc ça se ressent, mais on peut penser aussi que petit à petit l'institutionnalisation de papier aujourd'hui fait qu'on va davantage maîtriser, donc on proposer un dossier qu'on aura construit, toujours sous un regard différent, et puis aussi que l'on va, comment dire, privilégier ce dossier, donc avoir une couverture qui va être moins éclatée. Donc oui, je suis d'accord, quelque part, papier devient un petit peu plus institutionnel, un petit peu plus rangé, mais toujours intéressant.
Mais gagne peut-être en visibilité, ou en tout cas en clarté, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite, maintenant, il y a effectivement un dossier, comme dans un newsmag, avec un appel de une, et puis, enfin, sur la une, et puis quelques petits appels de une, donc vous allez retrouver ça aussi, Philippe Thureau-Dangin.
Oui, enfin, on s'est beaucoup penché sur l'idée sur la une, et notre ambition était ni de faire bien sûr une revue, ni enfin une revue de type commentaire
ou esprit,
etc., ouais. Ni de faire exactement un magazine. Alors donc chacun a ses façons de faire, 21 à la sienne.
Portrait,
etc. Bon, nous avons choisi effectivement de à la fois de montrer qu'il y a un dossier, c'est-à-dire d'avoir une image. Mais dans le numéro 22, par exemple, vous avez deux images. Vous avez une image en haut qui porte sur Ovid, sur les métamorphoses d'Ovid, et une image en bas qui est une affiche un peu fripée, déjà, du nouveau président Emmanuel Macron. Et donc là, il y a déjà deux images, plutôt qu'une. Et puis, il y a au milieu une sorte de sommaire pour montrer la richesse, puisque... Bien sûr, l'intérêt de papier, c'est d'avoir toute cette richesse de France Culture. Et donc, on peut parler à la fois d'Ovid, d'Amélie Nothomb, de Yasmina Reza, enfin, d'énormément de gens et de situations, de gens connus, là je viens de citer les connus, et de moins connus, que nous faisons découvrir. Voilà, donc... Mais c'est vrai que C'est une vraie question, la une d'un MOOC. En fait, c'est pas simple, parce qu'il ne faut pas faire livre, il ne faut pas faire revue classique, il ne faut pas faire magazine non plus. Et donc certains s'en tirent avec de l'illustration, justement. D'autres avec, en effet, cette multiplicité d'encadrés, enfin de carrés ou de rectangles qui annoncent la richesse du numéro. Voilà. Et donc chaque graphiste, et nous avons la chance de travailler avec une agence que je veux bien citer, qui est Building Paris. Et donc nous travaillons avec eux depuis deux numéros. De l'avis de beaucoup de gens, cette maquette est assez vivante et assez réussie.
Rachel Bévillacois, je voudrais qu'on en vienne à Portrait, votre MOOC, votre revue qui a été, dont on a parlé un tout petit peu là depuis le début. Donc je rappelle que vous êtes directrice éditoriale des éditions, enfin vous avez fondé les éditions du Portrait, et vous vous êtes dit il faut aussi faire vivre cette maison d'édition avec un MOOC. Comment vous est venue l'idée de Portrait ?
L'idée de Portrait, en fait, c'était vraiment le résultat de mes 15 ans de journalisme avant, où j'ai fait des portraits sans cesse et j'ai un peu vécu aux États-Unis aussi. Et j'avais toujours une grande question qui me traversait, c'était de savoir comment une idée nouvelle naît chez quelqu'un, qu'est-ce qui se passe. Et d'autre part, j'étais aussi complètement émerveillée quand quelqu'un me racontait son histoire, quand quelqu'un m'expliquait ce qui se passait. Et au fur et à mesure, évidemment, dans la culture américaine, je me suis rendu compte que l'échec est quand même un élément hyper important pour avancer et pour penser différemment. Et du coup, petit à petit, j'ai pensé la construction et l'écriture du portrait. Et je suis rentrée en 2009. Et quand je suis rentrée en 2009 et je travaillais pour mon magazine, j'avais fait un peu le tour de l'histoire. Et voilà. Et puis c'était le moment où il y avait Feuilleton, etc. Et du coup, Feuilleton, c'est vraiment une revue et un univers qui m'était familier. Et je me suis dit, donc ça veut dire qu'il y a peut-être une porte ouverte, et je me suis lancée.
Quand vous dites, j'avais fait le tour de l'histoire, quand je suis rentrée de l'histoire journalistique sous ses formes classiques, c'est-à-dire vous travaillez pour de la presse mode et culture, et finalement, le format n'était plus satisfaisant.
Ouais. Enfin, j'avais vraiment envie d'abord de parler d'autres... Enfin, le monde est grand, il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de choses à voir, et prendre le temps, c'était important. Et à nouveau, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand on signe un texte, on est responsable. Et donc c'est important de le penser, c'est important de vérifier, c'est important de dire des choses qui ont du sens, en fait.
Quand on lit vos éditos, qui sont assez courts, mais il y en a un par numéro, on sent chez vous, et c'est probablement l'idée aussi de départ de votre MOOC, ce désir très fort de la rencontre, ce désir très fort de l'autre. Il y a eu un numéro spécial de Portrait sur l'autre. C'était ça que vous vouliez aussi. Vous vous décrivez dans la petite notice bibliographique de fin de numéro. Vous dites « j'aurais pu être ethnologue ». Rachel ouais. Bévillacois.
Le portrait, c'est une rencontre avant tout. Hein. Donc c'est évidemment l'autre. Et comment vivre dans une société démocratique sans l'autre ? C'est pas possible. Et donc d'abord, c'est un vrai travail. Enfin, pas d'abord. Et après, c'est un tel enrichissement. Oui, c'est tout à fait le cœur des éditions, l'autre. Ouais.
Annick Bâtard, vous avez identifié, vous, dans votre article, un retour du portrait comme forme journalistique. Alors, on connaissait la biographie en histoire, etc. Mais il se passe quelque chose dans le monde de l'écriture à partir du milieu des années 90. On pense bien sûr au portrait de quatrième de couverture de Libé. Mais il se passe quelque chose dans les années 90. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi ce retour du portrait ?
Oui, effectivement, j'avais eu l'occasion, lors d'un colloque maintenant ancien, d'interroger les portraits, notamment la quatrième de couverture du journal Libération, dont je montrais qu'il était pionnier dans cette institution. Et à l'époque, les guides d'écriture journalistique disaient que le portrait était peu fréquent. Puis depuis lors, les guides des portraits expliquent que ce portrait a donc, notamment par exemple Michel Voirol ou Yves Agnès, expliquent que le portrait a vraiment explosé, qu'il est très présent, voire omniprésent. Et donc j'avais déjà eu l'occasion de faire un article qui s'intitulait « Le portrait journalistique entre approfondissement et anecdote », puisque en fait on peut avoir ce côté anecdotique, sympathique, où on a un complément d'éléments sur une personne qui est portraiturée durée, ou au contraire, le côté d'approfondissement d'éléments que l'on ne connaît pas et on va lire ce portrait pour avoir des renseignements supplémentaires. Et effectivement, là aussi, dans France Culture Papier, dans ses 10 premières livraisons, il y a des portraits, alors qui ne sont pas toujours indiqués comme des portraits, parce qu'ils peuvent être sous une forme dialogale, ou, mais c'est quand même la question de ce portrait où on apprend des compléments d'informations sur une personne, donc où on a un petit côté agréable, anecdotique, qui va mieux la saisir. Donc je pense qu'il y a une montée du portrait, et il y a également un ouvrage de notre collègue Aldine Frona qui a travaillé sur le portrait et qui est un ouvrage très intéressant sur le portrait.
Rachel Bévillacois, vous parliez on parlait tout à l'heure des gens connus ou moins connus. Vous, il y a un choix de donner plutôt la parole, mais pas que, à des gens peu connus. Alors au fil des numéros, j'ai pas pu noter tout le monde parce qu'il y a eu beaucoup de gens, mais par exemple un chasseur de livres, ancien colonel de l'armée israélienne qui s'appelle Raphaël Jérusalemi, l'économiste Hervé Juvin, que je ne connaissais pas, mais à culpa, l'ex-rédacteur en chef de Vogue Espagne Lisa Lovat-Smith, un libraire extraordinaire, moi j'ai lu son portrait, Guillaume Dumora. Là il y a un vrai choix éditorial de dire on va aller voir les gens que vous connaissez moins et qui sont remarquables.
Alors, juste avant, le portrait, pour compléter ce que vous disiez, Annick, c'est portrait, c'est l'exemple, avoir des exemples autour de soi, de parcours, de gens, c'est très important dans une vie. Donc le portrait, c'est ça aussi, en fait. Et les gens moins... Oui, enfin, tout est relatif, c'est-à-dire que... des gens moins connus, oui, ben on essaie de faire un mélange entre des gens... Enfin, Guillaume Dumora, il est très connu dans le milieu des libraires, hein, parce qu'il a une librairie qui est très particulière, etc. On essaie de faire un mélange, en fait, de gens plus connus, comme Toby Nathan ou Jean-Claude Amezen.
Oui, que vous avez interviewé.
Voilà. Et puis, c'était aussi l'idée de dire que c'est important aussi d'avoir des regards différents. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, la presse tourne toujours un peu autour des mêmes personnes, la radio aussi, d'ailleurs. Et donc, faire rentrer d'autres voix, c'est important.
Ben, l'idée, c'était au fond de dire que ces gens-là méritent d'être connus. C'est-à-dire qu'ils sont connus d'un milieu, mais que finalement, le grand public pourrait les connaître et les découvrir.
Enfin, ce qui mérite d'être connu, c'est le contenu, c'est ce qu'ils font. C'est ça qui mérite d'être connu. Et en fait, portrait, c'est ça. Ça raconte le contenu d'une personne, ce qu'elle fait. Et donc, c'est pour ça que quand vous dites qu'il y a des choses anecdotiques, je ne suis pas certaine, en fait, de ce terme-là. Alors... on l'inscrit plus dans un réel. C'est-à-dire que du coup, on se rend plus compte de la personne parce qu'on la raconte. Mais ce qu'on raconte, c'est ce qu'elle fait et ce qu'elle apporte, en fait, au monde.
Alors, je distinguais bien le portrait journalistique dans la presse généraliste. C'est-à-dire qu'il faut bien voir, là encore, qu'intervient la question du format, donc de la longueur et du temps qu'on y consacre. Et donc je comprends tout à fait que portrait qui se laisse un certain temps pour rencontrer les personnes puisse insister. En revanche, vous avez des portraits, sans même parler de la quatrième de couverture de Libé, mais des portraits dans vraiment de nombreuses publications qui sont très courts et qui là vont insister parfois sur la dimension anecdotique. Donc c'est pour ça que je crois que les formats et autres se complètent dans une mosaïque de portraits, et vous avez des portraits assez complets.
Philippe Durand.
Je crois que c'est intéressant ce retour au portrait que Libération a commencé il y a une vingtaine d'années ou 25 ans, parce que au fond, c'est lié à une histoire idéologique et à l'abandon des ce qu'on appelle des grands récits idéologiques et du fait que la façon d'entrer finalement dans les problématiques ou dans des questions intéressantes, c'est finalement par l'individu. Par le modèle ou par l'anti-modèle parfois, parce qu'il y a des portraits aussi de gens peu recommandables. Et donc ça, c'est un symptôme évidemment d'époque où, après les années 70-80, on a abandonné les analyses dures, les problématiques, la grille de lecture idéologique qu'on pouvait avoir sur l'actualité. On préfère finalement entrer par l'individu. Et donc, de ce point de vue-là, portrait... est exactement ce qu'il nous faut.
Rachel Bévillacois.
Juste pour compléter ce que dit Philippe, qui a absolument raison, c'est-à-dire que si on veut un collectif qui marche et qui respecte l'autre, il faut que l'individu soit conscient et il faut qu'il soit responsable. Donc effectivement, c'est sans doute un grand changement d'époque, c'est-à-dire la place de l'individu dans le collectif, et peut-être qu'on commence à comprendre qu'un collectif ne marche que si l'individu à nouveau est responsable de ce qu'il fait. Et donc peut-être qu'on rentre plus facilement par l'individu dans les histoires que par la théorie ou par...
Et pour entrer dans l'individu, on parlait de la littérature tout à l'heure, Rachel Bevilacqua, vous avez fait le choix d'avoir des plumes d'avoir des gens qui aiment écrire, savent écrire. Je pense à Paco Mtielman, dont on parlait un peu en préparant l'émission, Judith Pérignon. Là, il y avait un choix de dire je vais prendre des écrivains, et vous-même, évidemment. Deux portraits dans chaque numéro, quasiment.
Le choix des écrivains, c'est, je pense, un amour pour les mots, en fait, et pour la puissance du mot. Et donc, c'était important. Mais il y a des journalistes qui sont écrivains. Judith Pérignon est une écrivaine, et par ailleurs, elle est journaliste aussi. Donc, les étiquettes, c'est toujours très compliqué, mais en fait, c'est vraiment cette relation aux mots, et qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Donc, oui, pour nous, c'était très important qu'on ait des signataires qui aient cette relation-là aux mots.
Est-ce qu'ils sont, ils ont l'air heureux d'écrire? En tout cas, on prend du plaisir à les lire. Est-ce qu'ils vous disent que finalement, avoir du temps, avoir autant de nombre de signes ou de caractères, parce qu'on pense beaucoup en termes de calibrage dans la presse, est-ce que là, ils vous disent, voilà, j'ai un peu de temps, je me fais plaisir à écrire, je ne suis pas dans la petite phrase, dans la citation, Rachel Bevilacqua?
J'ai la chance d'avoir beaucoup d'écrivains, et les journalistes que j'ai sont des écrivains aussi. Donc ils ont la place et ils prennent le temps d'écrire.
Ils sont moins contraints que d'autres, alors.
Oui,
peut-être.
Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de journalistes qui ont très envie de retrouver ce long format et ce temps de réflexion sur un sujet, parce que pour eux, c'est pas évident non plus, hein, de faire des petits textes et de finalement être peut-être frustré, et au-delà de frustré, mais de pas pouvoir exprimer en fait ce qu'ils voient et ce qu'ils ramènent de leurs enquêtes, etc.
Ce qui m'a frappé en lisant votre MOOC, c'est que vous-même, alors vous écrivez et puis vous commentez vos interviews. C'est-à-dire qu'il y a des petits inserts comme ça, des petites pastilles. Alors par exemple, vous vous dites un peu déçu de l'interview avec Théodore Zeldin, historien, ou alors l'interview avec Toby Nathan. À un moment, vous dites oh, je suis complètement perdu dans cette interview, et vous le laissez. C'est-à-dire vous laissez les marques du subjectif du travail en train de se faire et de votre propre ressenti. C'est une démarche intéressante, enfin je trouve, en tout cas originale.
Pour Toby Nathan, les deux ont fait un travail extraordinaire, et c'est vrai que j'avais été complètement émerveillée et passionnée par leur livre. Et pour Toby Nathan, c'est vrai que, en fait, il y a eu une incompréhension sur lui, ce qu'il développait, et moi, ce que j'avais entendu dans ses livres et dans ses écrits. Donc c'était intéressant peut-être de le ramener aussi dans le compte-rendu de l'entretien, pour faire entendre, en fait, cette différence de compréhension.
Dans la lignée de ce que disait Philippe Thureau-Dangin, ça veut dire qu'entrer par les gens ou par l'individu, c'est difficile. Parfois, l'individu peut faire obstacle à sa propre pensée. C'est un peu ce qui s'est passé avec Toby Nathan. Il vous dit des choses un peu étranges, ou non? Ou alors plutôt avec Zeldin?
Oui, avec Toby Nathan, pas du tout, parce que c'est un type tellement extraordinaire et qui est vraiment dans l'échange et dans le partage, alors que Théodore Zeldin était beaucoup moins dans le partage. Et quand on va voir quelqu'un et qu'on veut rencontrer quelqu'un, on a envie d'échanger. Et là, je me suis trouvée un peu face à quelqu'un qui avait peut-être pas envie, ou qui était timide. Et du coup, ça a été un peu laborieux, oui.
Philippe Thureau-Dangin, quand vous choisissez l'émission qui va être retranscrite, j'aime pas le mot, mais dans papier, il y a une discussion, évidemment, avant avec l'animateur, où vous lui dites, là, cette émission, elle m'a beaucoup plu. Lui vous dit, effectivement, cet invité a été extraordinaire. Comment ça se discute?
Moi, j'ai pas la chance d'écouter France Culture 24/24, donc j'ai un certain nombre d'informateurs, en gros, d'amis ou de producteurs de France Culture, à qui je demande directement, est-ce que tu as fait une émission, par exemple, qui t'a particulièrement impressionné, justement, où la rencontre, il y avait une vraie rencontre avec quelqu'un. Et donc, c'est un petit peu le succès d'année de toutes ces subjectivités, puisqu'on parlait de subjectivité tout à l'heure, qui me permet d'établir un sommaire en relation, bien sûr, avec Sandrine Trainer, qui est la directrice de France Culture et qui a son mot à dire, puisque c'est en fait une coédition entre Radio France et ma maison d'édition qui s'appelle Exil. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, chaque producteur, et quand je choisis une émission, bien sûr, j'appelle ou j'envoie un message au producteur qui peut réagir, me met souvent en contact avec la personnalité qui est interviewée et qui, elle aussi, parfois nous dit oui, il y a tel passage où j'ai pas été très bon, ou je sais pas trop quoi. Enfin, bon, il y a des possibilités de remords, il y a des possibilités d'édition, comme on dit, de couper des choses ou d'améliorer. Enfin, voilà. Donc, c'est pas tout à fait de la radio transcrite. Oui. Et puis, l'idée, encore une fois, de papier, c'est aussi d'apporter une mise en contexte de ces interviews, de ces retranscriptions, avec un certain nombre d'éléments. On parlait des photos, des illustrations, mais aussi éventuellement des graphes, des cartes, des textes, des exergues, des encadrés, enfin toutes sortes de choses assez journalistiques finalement pour le coup, mais qui donnent peut-être un peu de plaisir et un peu de dimension de réflexion au lecteur.
Est-ce que quand on édite un MOOC, on subit les contraintes cumulées de l'édition d'un livre et d'une revue en même temps? Est-ce qu'il y a cette dimension-là ou voilà, est-ce qu'il y a des contraintes propres à Shelbyville à quoi?
C'est bien pire, parce que quand on édite un livre, on a un texte. Quand on édite une revue, alors dans papier, je ne sais pas il y a combien de textes, mais dans portrait, il y a 13 textes d'écrivains accompagnés d'illustrations ou de photos. C'est chronophage, mais c'est extraordinaire.
Oui, il y a des contraintes où effectivement il y a une multiplicité d'intervenants. Moi j'ai finalement le double parce que j'ai à la fois un producteur de France Culture et un intervenant au minimum, ou plusieurs intervenants parce qu'il y a des émissions de France Culture où il y a plusieurs intervenants. Donc effectivement, ça prend beaucoup de temps, mais aussi c'est ça la richesse, hein, c'est ça l'intérêt par rapport à un livre. Avec un seul auteur. Et puis, les contraintes, vous parliez des contraintes, il y a aussi des contraintes financières, hein, dans la plupart des MOOC, qu'il faut quand même pas ne pas le dire, disons. Moi, j'ai la chance d'être effectivement avec Radio France qui donne un certain nombre de moyens, mais malgré tout, c'est une chose chère à produire. On parlait du prix des photos tout à l'heure. Il y a les auteurs, je ne sais pas si les auteurs de portraits sont rémunérés, mais il faut rémunérer les auteurs. Il faut voilà. Et puis on parlait de bels objets, ça suppose aussi de soigner la présentation. Donc il y a des contraintes financières qui font que il n'est pas forcément facile d'équilibrer un MOOC aujourd'hui. Alors il y a des grands succès. 21 est un immense succès qui est d'ailleurs assez pérenne, m'a dit Laurent Pécaria récemment. Il y a America qui a été lancé par notre confrère Bunel avec un certain succès, en tout cas les premiers numéros. Mais il y a aussi beaucoup de MOOC, hélas, qui tirent le diable à la queue et qui sont faits sans doute avec passion, mais aussi avec des ficelles, comme on dit. Oui,
d'autant que le marché commence à être bien occupé. Rachel Bévilacqua, on disait en préparant cette émission, vous ne voulez pas être prise dans un timing trop rapide pour sortir portrait. Donc maintenant, vous en venez à un numéro par an. Ça vous paraît raisonnable pour faire le bel objet que vous voulez proposer?
On pourra en faire deux par an aussi. Les éditions du portrait produisent aussi d'autres choses. Et la revue fait évidemment partie des productions, des publications de la maison. Mais en effet, la régularité de publication, ça impose en fait sans doute une obligation temporelle qui me paraît en fait assez néfaste pour le texte et pour la production photo et illustration d'un contenu d'une revue. D'autant plus qu'à chaque revue, nous, on a des thèmes en fait. Donc, je pense qu'on va sortir la revue quand on aura suffisamment d'argent et en même temps quand on sera prêt.
Là, vous me disiez, le numéro 5 est prêt, mais il est dans l'ordinateur. Oui. Donc, il faut attendre un certain temps d'avoir les sous ou le bon timing pour le sortir.
D'une part, le bon timing. Et puis là, on est sur d'autres projets. On a acheté des droits d'un livre américain et on fait des ateliers d'écriture aussi. Et on porte un projet qui s'appelle Portrait d'héroïne. Et ce qui fait que ça va sortir, mais en 2018.
Donc les éditions du portrait sont très occupées. Est-ce que vous arrivez à rémunérer, si ce n'est pas confidentiel, est-ce que vous rémunérez les auteurs dans Portrait?
Oui, les auteurs et les photographes et illustrateurs. Oui.
Il y a une bande dessinée dans Portrait, on n'en a pas parlé. Ouais. C'est aussi un choix de décaler quelque chose, d'avoir une autre forme complète de narration. Rachel Bévilacqua.
Mais qui est aussi... Un portrait, ça peut être fait en images, en BD, en texte. Oui, absolument. Ouais. C'était pour montrer qu'on pouvait faire un portrait autrement que par un texte.
Il existe d'ailleurs, je crois, un MOOC qui s'appelle La Revue Dessinée.
Qui a un certain succès, d'ailleurs.
Oui, qui en est à pas mal de numéros. Philippe Thureau-Dangin, comment vous voyez l'avenir de papier, maintenant que vous l'avez repris? Comment ça se présente en termes de fréquence, modification?
On s'est beaucoup posé aussi la question de la fréquence. Certains voulaient passer de 4 numéros par an à 2 numéros ou 3 numéros. Moi, j'ai insisté pour rester sur 4 pour des raisons... à la fois justement de rythme par rapport à l'actualité. Je pense qu'il ne faut pas complètement abandonner d'être une sorte d'écho, de chambre d'écho de l'actualité. Et donc, on va rester sur 4 numéros, on va rester sur le même format. Tout se passe plutôt bien pour l'instant. Donc, et grâce à vos auditeurs, ça se passera encore mieux. Et l'un des rêves, ça serait de compléter en fait ce que nous faisons actuellement par une sorte de cahier, pourquoi pas effectivement sur un autre format, un plus petit format, une sorte de cahier de création où on demanderait à trois ou quatre, dans chaque numéro, à trois ou quatre créateurs, écrivains, plasticiens, etc., leur brouillon. Enfin, peut-être que Portrait peut le faire aussi d'ailleurs, mais moi j'aurais assez envie, par rapport à des contenus qui sont très... qui sont finalement du second ou du troisième degré, puisque ce sont des interviews, reprises, etc., etc. Quelque chose de plus brut, ça serait une évolution possible.
Voir la création en train de se faire, en tout cas, voir les accidents de la création. Merci beaucoup à vous trois. Cette émission s'achève. Vraiment, encore merci chaleureusement d'être venu. Annick Battard, vous voulez dire un mot ? Allez-y.
Oui, je voulais juste dire que je n'étais que l'une des contributrices du livre donc publié par Audrey Alves et Marieke Stein, Les MOOC, espace de renouveau du journalisme littéraire, paru chez L'Harmattan en 2017.
Merci beaucoup, merci. J'allais le préciser, vous l'avez très bien fait. Rachel Bévilacqua, je vous remercie, vous êtes directrice de la revue Portrait au singulier. Et Philippe Thureau d'Angin, donc rédacteur en chef de la revue France Culture Papier, papier désormais. Voilà, cette émission sera en podcast très rapidement sur le site de Fréquence Pro. Le Midi Magazine de demain est consacré à Spinoza. Moi, je vous retrouve dans le Midi Mag le 20 novembre pour parler des séries françaises. Merci à Emmanuel Demisco, à la technique. À très bientôt.